T'es super perché, toi, une rêveuse. Tu vois la vie comme une poésie.
T'as un problème de concentration, c'est pas possible. Mais tu fais pas attention. Réfléchis.
T'as pas de carapace? Tu vas te faire bouffer tout cru par le monde?
Les atypiques du cerveau, le podcast qui en a entre les deux oreilles. Bonjour et bienvenue dans Les atypiques du cerveau. Je suis ravie d'accueillir Lauriane qui va venir nous parler de son monde, de sa façon de voir le monde. Bonjour Lauriane, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire en quoi tu es une atypique du cerveau ?
Eh bien, bonjour Mélodie, merci pour l'invitation. Alors me présenter, journaliste, critique culturelle, beaucoup dans la musique, et puis réalisatrice sonore. Et en quoi je suis atypique du cerveau ? Eh bien j'ai été diagnostiquée HPI en 2011, et voilà, et on a découvert aussi une dyslexie très tardivement, dysorthophonie également, et synesthésie aussi.
Je crois, lors d'un épisode, quand j'étais sur Clubhouse, en direct.
C'est ça, ça s'est fait en direct. J'en avais plus ou moins entendu parler, et quand je t'ai entendu expliquer ce que c'était, je me disais, mais c'est pas possible, je me reconnais vraiment plus, et puis on en a discuté, et en fait, ça s'est fait en direct. J'en ai des frissons encore.
Tu nous avais dit que tu, en effet, on parlait de musique et pour toi c'était de la matière et c'est comme ça que tu avais réalisé que tout le monde ne voyait pas la matière et cuisiner, je me rappelle, ces aliments en fonction de leur couleur, pas de leur couleur réelle mais de leur couleur que ça évoquait.
C'est ça, et ce que je dis souvent, c'est la lumière a une odeur et la musique a une texture. Et depuis cette émission, j'ai relu toutes les chroniques que j'ai faites musicales avec les chanteurs depuis presque 20 ans. Et c'est vrai que ça se voit en fait. Dans mes textes, ça se voit.
Tu disais aussi que tu as eu un bilan tardif par rapport à ton haut potentiel intellectuel, dyscalculie, dysorthographie, c'est ça ?
C'est ça. Alors effectivement, moi déjà très très jeune, j'avais eu des difficultés. Je me souviens, je préparais mon oral d'espagnol au bac. Quand ma prof d'espagnol m'a dit « mais vous ne seriez pas dyslexique », donc à 17-18 ans, comprendre qu'on est dyslexique, c'est toute une scolarité compliquée quand même derrière, mais voilà, personne n'avait mis le doigt dessus. Et c'est suite à un entretien avec une boîte en 2011, j'avais eu un super contact avec le RH qui était très 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 sympa et qui, au vu de mon profil, m'a demandé si j'étais pas HPI entre autres et que ce serait intéressant de passer le test, ne serait-ce que comment après postuler en fait, comment se positionner auprès des entreprises. Et c'est comme ça que j'ai fait la démarche. Et c'est comme ça que j'ai découvert qu'effectivement, ça donne un éclairage sur tout un récit.
C'est ça. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, justement, de le savoir plus tardivement que d'autres ?
Ça m'a permis de me réaligner, ça m'a permis de m'accueillir. Parce que j'ai eu le sentiment, pendant des années et des années, d'être en contorsion, d'essayer de m'adapter à un moule alors que je ne comprenais pas du tout les règles du jeu. C'est très déstabilisant de rentrer dans une cour de récré, d'avoir très très envie de jouer avec des gens et de se rendre compte qu'en fait on ne comprend pas les règles. Je comprends pas les règles du monde, mais déjà même à l'école je disais je ne comprends pas ce qu'on attend de moi. Le fait de comprendre que c'est une autre manière d'aborder le monde, enfin pour moi le fait de le savoir m'a permis de comprendre que mon cerveau et mes sens percevaient l'environnement différemment. Ce qui me n'était pas à l'écart des autres, mais c'était une façon de percevoir les choses qui était assez différente. Et donc oui, ça m'a permis d'aller jusqu'au bout en fait de qui je suis et d'arrêter de porter un costume qui ne m'allait pas quoi.
Le fameux faux self.
Exactement.
Et alors dans les phrases que j'ai données au tout début, qui sont des phrases que tu m'as données, hein, que tu as souvent entendues, tu parlais aussi de carapace.
Alors c'est mon hypersensibilité qui se joue sur deux plans. Bah, d'abord l'hypersensibilité des émotions, effectivement. Je peux être un peu à fleur de peau. Mais je me suis rendu compte que mon émotion, mon curseur des émotions était déterminé par mon curseur des sens. Et quand je sens qu'il y a quelque chose qui est trop violent en termes de lumière, en termes de son ou en termes de toucher, c'est vraiment pour moi les trois sens. C'est ce que je disais un jour, je crois que je pourrais être aveugle quelque part ou ne pas ne perdre le goût, ça serait pas si grave. Par contre, si on m'enlève l'ouïe, le toucher et l'odorat, je suis vraiment perdue. il y a vraiment quelque chose qui... je peux même aller jusqu'à des crises d'angoisse, en fait. J'ai vu le lien. Quand mon hypersensibilité a été fragilisée, c'était en lien avec les sens. Alors après, le mental prend le dessus et essaie de l'expliquer de façon rationnelle. Alors effectivement, ça peut être une phrase qui a été dite, quelque chose qui peut éventuellement me toucher. Mais ça, c'est ce qui reste factuel. Mais c'est ce qui se cache derrière, en termes d'émotion et en termes de ressenti, de ce qu'on ne voit pas, de ce qui n'est pas palpable, qui va me toucher. Je me souviens quand j'ai bossé à France 2, j'allais au boulot, j'avais mal au ventre, je sortais de la télé et j'en pleurais. Et j'avais souvent mon père qui me disait « Mais si tu continues comme ça, tu vas jamais t'en sortir dans la vie, quoi. Il faut que tu aies une carapace. »
Et comment on a... Alors, est-ce que tu l'as, cette fameuse carapace,
non.
maintenant ?
Non, non.
Comment on fait avec
non,
ça ?
Non,
parce
non,
que
non.
C'est souvent quelque chose qu'on dit aux personnes qui sont hypersensibles. Enfin, moi-même, j'ai déjà entendu aussi. Hein, faut que tu te blindes, faut que tu aies une carapace. Concrètement, personnellement, j'ai pas trouvé. Donc, je sais pas si toi, comment tu gères ça ?
C'est récent, hein. J'ai 43 ans, là, donc c'est récent. J'ai compris que je suis un être humain, je suis une créature qui, au même titre que toutes les créatures sur cette planète, et quand je parle de créatures, ça peut être aussi les végétaux, ça peut être les animaux, peu importe. Hein. C'est-à-dire, je suis un organisme vivant qui a un circuit de pensée et un circuit émotionnel qui est propre. Et ça ne fait pas de moi quelqu'un qui est à l'extérieur d'un groupe, puisque je fais partie des êtres vivants. J'ai appris à être très raccord avec mon essence. Je suis un être sensible. Bon, par exemple, là, au niveau du boulot, je me suis retrouvée dans des configurations où il faut travailler dans l'urgence. Je ne sais pas travailler dans l'urgence. Je ne peux pas travailler dans l'urgence. Je suis quelqu'un qui a besoin de lenteur, je fais des documentaires, j'ai besoin d'appréhender les choses doucement. Bon, bah maintenant que c'est compris, je ne vais pas me mettre en souffrance. À aller chercher quelque chose où je me dirais « ouais, ça peut être fun parce que je peux le faire, parce que j'ai les outils pour le faire », en sachant que, bah non, d'abord je vais me mettre dans un état de stress où tout d'un coup, bah forcément, ma dyslexie va ressortir, je vais avoir des lacunes, je vais vouloir bien faire, je vais avoir le complexe de l'imposteur, enfin tout va ressortir parce que je suis pas dans mon élément. Donc plutôt que de me mettre une carapace pour essayer de rentrer dans un moule, je me suis dit je vais rester telle que je suis parce que j'ai le droit d'être, tout simplement. J'ai le droit d'être et je peux apporter quelque chose. Alors ça sera peut-être plus compliqué, plus complexe, mais après je pense que c'est aussi une manière de percevoir le monde et de se dire je peux le faire. Je peux le faire.
Tu disais par rapport à un entretien, tu as fait réaliser que ton cerveau fonctionnait différemment. Ça a changé quoi dans le monde du travail pour toi ? Parce que tu as quand même eu une carrière dans plusieurs médias, tu as fait plein de choses, maintenant tu es à ton compte. Est-ce que c'est lié aussi à toutes ces différences ? Comment toi tu le vis par rapport à ça ?
Oui, oui, tout à fait. J'ai fait des choix qui, dans un premier temps, ont été des non-choix. Et puis finalement, ça se met en place de façon assez naturelle en fonction, encore une fois, de qui je suis. Et au niveau du boulot, finalement, c'est moi qui choisis. L'hypersensibilité, qui peut être vue comme un fardeau, qui peut être vue comme un point bascule, ça peut être vu comme un handicap. Comme tout le monde, hein, et puis surtout au début, quand on rentre dans la vie active, qu'on a envie, encore une fois, de jouer avec tout le monde et de dire « voilà, je veux avoir les règles du jeu et je veux pouvoir participer », quand on se rend compte qu'il y a un décalage. Du coup, je l'ai cultivé, moi, mon côté justement perché. Parce que ça, c'est des choses qu'on m'a dit aussi. Je suis une rêveuse. J'ai aucun contact avec la réalité. Alors que quand on connaît ma vie, je pense que je peux pas me reprocher un truc pareil, quoi. J'ai fait des expériences, justement, en lien avec la vie. D'autres pourraient avoir peur de vivre. Mais moi, je les ai vécues, pour le coup. Quand on me dit que je suis perché, que je suis une rêveuse, eh ben ouais, c'est OK, en fait.
Mais tu prends l'autre pied, en
fait. Ah ouais, c'est... Ouais. Et je m'amuse, finalement, à être dans mon authenticité. À dire oui, effectivement, j'ai une vision, j'allais dire positive, c'est pas une question de voir le côté négatif ou positif, mais j'y vois toujours. Pour moi, la vie, tout simplement, en fait, la vie est un plateau de cinéma. Et moi, j'ai le premier rôle. Mais un peu comme à la Truman Show, quoi. Ouais, sauf quand tu reçois le scénario, parfois, t'es sûr, je vais jouer ça quand même. Vous êtes sûr, les gars.
Non, bah, tu reçois le scénario de ta vie en avance.
Oui, c'est ça. Bah oui, bah, vous pourrez le jouer dans la journée, tu vois. Alors parfois, oui, comme tout film au cinéma, quand on regarde les Truman Show, quand on voit des biopics comme ça, on voit l'histoire, on se dit mais c'est pas possible. Bon, bah, du coup moi je me dis ok, donc ma vie, ça se joue sur un plateau de cinéma. Je sais pas où sont les caméras, mais il se passe quelque chose où je dois jouer en fait un rôle. qui va être le mien, qui pourrait inspirer ou pas. J'ai pas cette prétention de vouloir inspirer les gens, mais en tout cas d'être moi-même, parce que encore une fois, je suis un autre.
Parce que tu dis jouer un rôle, mais du coup c'est, enfin, être toi-même, c'est pas, t'es pas dans un jeu de rôle entre guillemets permanent, non. Et donc dans une suradaptation permanente. T'as décidé justement, voilà, c'est tes règles du jeu finalement.
C'est ça.
Et c'est toi la star de ton plateau télé.
C'est ça.
Et voilà, c'est le monde qui évolue autour de toi.
C'est ça, exactement. Exactement, mais un peu à la Milou Poulain, quoi. C'est, voilà, mais maintenant c'est ok. Et je le vis très bien comme ça. Et au niveau du boulot, c'est même mon réservoir d'inspiration. C'est ce que je peux apporter dans mes photos, dans ma plume.
T'as un univers bien à toi. Enfin, pour les personnes qui ne connaissent très pas.
Oui. C'est ça. Et que j'ai toujours eu d'ailleurs par le biais de la musique, avec la synesthésie, puisque je percevais la matière et je racontais ce que je...
Peut-être, est-ce que tu peux nous dire un petit exemple? Parce que c'est vrai que quand on dit ça, c'est-à-dire, est-ce que tu as quelque chose à partager, je sais pas, sur un artiste, une musique, un album, comment toi tu perçois ça?
Alors là, moi ce que je fais par exemple quand je reçois, ou quand je regarde les sorties, par exemple le vendredi c'est les sorties des disques, je ne regarde pas les communiqués de presse, je ne regarde pas ce qui a été écrit dans la presse avant, j'écoute en fait, je sélectionne déjà par la pochette de disque. Donc c'est très important les pochettes de disques parce que ça racontait déjà beaucoup. Et après j'écoute. Et quand j'écoute, je ressens de la texture. Je vais sentir aussi des ambiances de lumière.
Tu ressens la texture, c'est-à-dire tu peux toucher par exemple...
Sur ma peau, oui.
D'accord.
Je ressens sur ma peau, ça peut être de la soie, ça peut être de la dentelle. Voilà, puis alors après, ça va être au niveau du bout des doigts, je peux sentir par exemple la peau du tambour. Y a des choses comme ça qui vont m'emmener en fait. Le fait de toucher va me porter vers une dimension et cette dimension va m'en dire plus en fait sur l'album. Et je ne me trompe jamais. Par exemple, il y a quelques semaines, j'ai découvert un album génial. Je n'ai rien vu, je n'ai rien écouté de plus que ce que j'ai entendu à la sortie du disque. Et je me suis vue dans un univers un peu entre chien et loup. Je ressentais en fait les graffitis dans un Londres underground. Ça sentait un peu le métro. Voilà, il y avait tout ça en fait qui a commencé à surgir. Je pouvais toucher le granit, hein, du bout des doigts de la pierre ou des murs. Et donc là, j'ai commencé à comprendre que c'était anglais, j'ai vu comment ça a été écrit, et puis après, j'ai découvert l'album, je suis allée regarder ce qu'il en était dit, et ça collait en fait.
Donc c'était en fait, tu voyages, tu n'as même pas besoin de voyager,
c'est ça.
Tu voyages, c'est ça. Par la musique, c'est génial.
C'est ça.
Super intéressant, merci. Par rapport à tout ce que tu viens de nous dire, je ne sais pas si tu aurais peut-être un conseil ou quelque chose à partager pour les personnes qui seraient dans ton cas, qui sont atypiques du cerveau ou qui peut-être s'interrogent, comme toi le découvrent un peu tardivement.
Alors déjà, une histoire reste très, très personnelle et comment on l'appréhende en fonction de son atypisme, hein, quelque part. Mais ce que j'ai compris récemment, enfin depuis 1 ou 2 ans, quand j'ai arrêté de jouer un rôle et que j'ai arrêté de me contorsionner en fait et que je suis allée jusqu'au bout de ce que je suis et de ce que j'ai envie de partager, ça fait écho en fait chez les gens. Plus par exemple quand je faisais des photos, j'avais envie de faire des photos que je voyais déjà sur Instagram et alors quand je dis c'était pas des photos d'instagrammeurs hein, mais je veux dire des photos qu'on pourrait voir sur Insta, des trucs bien propres, oui. Bien machin. Bon, ça fonctionnait, on disait que c'était joli esthétiquement, il y avait voilà, mais maintenant que je raconte mon histoire par exemple à travers les photos, ça évoque, ça offre la possibilité aux gens d'être eux-mêmes dans leur propre poésie. Et donc je me suis rendu compte qu'en étant moi-même et en apportant en fait ce que je suis pleinement, eh bien finalement je touche le cœur de beaucoup de gens et des gens qui ont aussi cette fibre de poésie ou d'envie de voir le monde autrement. Donc c'est chouette parce que ça ouvre des portes chez des personnes qui ne se l'autorisent peut-être pas forcément. Et le conseil que je pourrais donner, c'est qu'en étant soi-même, on n'est pas un accident. On est ce que nous sommes en tant qu'êtres vivants. Et on a toute notre place. Et que c'est pas aux autres de nous donner la permission d'exister, en fait.
Ça nous apprendre. Voilà. Très belle conclusion, merci. Ouais, je note aussi arrêter de se contorsionner, finalement, pour s'étirer et puis aller encore plus haut.
C'est ça.
C'est une belle image, on visualise bien. Bah merci, merci beaucoup.
C'est moi qui te remercie.
Et puis bah moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Atypiques du cerveau.